Bonjour à chacun, je vais prier pour commencer. La loi de l'Éternel est parfaite, elle donne du réconfort, le témoignage de l'Éternel est vrai. Il rend sage celui qui manque d'expérience. Oui, notre Père, notre Dieu, merci pour ta parole, parce qu'elle est source de joie, oui, source de réconfort et source de sagesse. Seigneur, je te demande d'ouvrir nos cœurs et de nous disposer pour être à l'écoute, pour entendre ce qu'elle a à nous dire, pour reprendre là où nous devons progresser et pour nous encourager là où nous sommes faibles. Au nom de Jésus-Christ, amen. Comme Eric disait, je vais continuer sur 1 Corinthiens et le chapitre 4 aujourd'hui. Mais en tout cas, bravo à vous si vous avez bravé la circulation de Bruxelles et le marathon pour arriver ici. Chapeau. Pas été simple. C'est une véritable performance. Et c'est assez frappant de voir que aujourd'hui, le running est quelque chose d'assez populaire. C'est quelque chose qui marche bien, que tout le monde fait. Une pratique sportive vraiment, vraiment populaire. 18 000 personnes sont attendues pour faire le marathon. Impressionnant. Aucun jugement de ma part, j'en suis incapable. Mais je respecte ceux qui le font. Et c'est assez frappant parce que quand vous discutez avec quelqu'un qui fait du marathon, très vite, on va basculer, on va parler de performance. On va vous parler de VMA, d'allure, temps au kilomètre, matériel, chaussures, montres connectées, applications. Et très vite, moi, je suis perdu parce que je ne sais pas trop ce que ça dit. Mais en vrai, ça symbolise assez bien la société dans laquelle on vit. Une société qui est vraiment accrochée aux performances. Les sociologues décrivent même la société comme une société de performance. C'est-à-dire que tout le monde, et à chaque instant, on est évalué, on est examiné, on est noté, on est classé, on est jugé. Il y a un ordre qui est fait. Tout ce qu'on a comme action peut être évalué, et même notre propre personne est évaluée. Et en fait, nous aussi, on évalue les autres. Et ça va dans tous les domaines. La performance individuelle est valorisée au-dessus de tout. Il faut être toujours plus productif, plus efficace. Sinon, en fait, on est dans une classe inférieure et on descend petit à petit. Et en fait, ça touche tous les domaines. Au travail, ben, je pense que vous le vivez, on est évalué, que ce soit trimestriellement, annuellement. Et en fait, de l'évaluation de nos performances dépend si on avance hiérarchiquement, si on va toucher un euro symbolique de plus ou pas. Mais clairement, l'évaluation va montrer quelle est notre compétence. À l'école, pareil, c'est le système. On évalue des élèves pour savoir quelle est leur compréhension de ce qui doit être acquis, quelle est leur note, quel est leur rang. Et en fait, de ce rang découle, qu'est-ce qu'on peut faire comme étude, qu'est-ce qu'on peut choisir comme UNIF, et en fait, qui on sera demain. Et même dans les loisirs, en fait, il y a une évaluation ou un jugement des performances. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé au ski, il m'est arrivé d'y aller quelques fois, et très vite, on vous demande, vous êtes quoi ? Classe A, classe 1, 2. Et en fait, en fonction de ce que vous répondez, on vous donnera des skis et on vous fera skier sur une piste verte avec les petits ou sur une piste noire avec les plus excellents. Et en fait, même dans les domaines les plus basiques de la vie, on évalue, on critique, on juge, on donne un avis. Vous allez à la boulangerie, vous achetez du pain. La boulangère n'était pas très sympa, un peu agressive. Et bien, vous rentrez chez vous, prenez votre GSM, vous lui mettez une étoile et vous laissez un commentaire au vitriol. Alors vraiment la pire boulangerie de Bruxelles, pour que tout le monde le sache. Et c'est un peu comme ça que notre société fonctionne. Le facteur passe, il livre un colis, vous pouvez le noter. Toutes nos performances sont scrutées. Et je ne parle même pas de pays comme la Chine où on note les citoyens. Ils ont une note sociale et en fonction de leur note, ils ont droit à des privilèges ou pas accès à certaines choses. Personne ni rien n'y échappe. Tout le monde est jugé, tout le monde est classé, tout le monde est évalué en fonction de ses performances. Et ma question ce matin, c'est finalement, est-ce que l'Église est un oasis qui échappe à tout ça ? Est-ce qu'on est en dehors de ce système de performance ? En fait, non. Si vous tapez sur Google « Église protestante évangélique de Bruxelles », eh bien, il y a une note. Rassurez-vous, hein, plutôt bonne note, 4,9 sur 5, donc ça va, on est soulagé. Plutôt bonne église, les gens peuvent venir, on peut les inviter parce qu'on est assez bon. plein de commentaires de gens qui ont donné leur avis sur des cultes, des gens qu'ils ont rencontrés. Excellent. On peut être fier. Mais si on est jugé de l'extérieur, est-ce qu'à l'intérieur, on juge nous aussi? Est-ce que finalement ce système de notation vaut pour nous, entre nous ici, les uns les autres? Si c'était le cas, hein, hypothétiquement, si ça existait, ça pourrait ressembler à quelque chose comme « Ah, celui-là, quand il prêche, c'est vraiment, vraiment, vraiment terrible. Pas terrible. Pas d'explication théologique. Peu d'illustrations. Et en plus, ça dure une éternité. On est sûr qu'on ne sera pas rentré pour midi à la maison. Franchement, il n'est pas à sa place. » Ou encore, « Ouais, la musique ce matin, un peu fort quand même. Hein. Et en plus, ils ont choisi que des vieux chants, que des trucs pour des vieux. Alors, c'était vraiment franchement l'ennui. Hein. » Ou alors quand c'est elle à l'école du dimanche, exceptionnel. Tout est nickel, enseignement carré, tout est à l'heure. Tu peux être sûr que les enfants vont être au pas. Et à la fin, ils auront fait une belle activité et tu auras un cadeau en plus. Elle est vraiment top. Ou encore, ouais, je pense pas que ce soit fait pour lui ce ministère. Hein, regarde son allure, regarde un peu son éloquence. Pff, il a rien. En plus, il s'habille un peu vieillot, tu vois, il a pas des prestances. Ah, je suis pas sûr qu'il soit fait pour ce ministère. Bien sûr, je ne vise personne, c'est pas des faits réels. Je ne connais pas le fond de vos pensées, ni sur moi, ni sur personne. Mais je connais mon cœur et je sais que quelquefois, des choses comme ça peuvent émaner de mon cœur. Et vous conviendrez avec moi que, quelquefois, on se permet certains jugements comme ça, même au sein de l'Église. Finalement, on n'est pas très différent à l'intérieur de l'Église que de ceux de l'extérieur. Ils jugent, ils évaluent en fonction des performances et nous aussi, en fait. La culture du monde s'est infiltrée et infusée dans l'Église. Finalement, on a remplacé la sagesse de Dieu par la sagesse du monde. Et ce constat, ce n'est pas propre à nous ici et à ce dimanche et à nous à la rue du Bonitaire. C'est un constat qui concerne en fait toutes les églises et en fait toutes les époques. Et c'est ce que les Corinthiens vivaient exactement, cette situation, une culture de la performance. Les chapitres 1 et 3 qu'on a vus avant ont montré que Corinthe était rongée par les divisions. Des divisions qui sont nées d'une mauvaise compréhension de ce que sont les leaders et de jugements basés sur les performances. Certains considéraient par exemple Apollos comme le meilleur responsable du fait de sa culture, de son charisme, de son éloquence, au détriment de Paul qu'il trouvait un peu fouet, un peu nul, un peu mou. Alors il se rangeait derrière Apollos, presque comme derrière un gourou qu'il suive, et en fait, tous ceux qui ne suivaient pas ce gourou étaient méprisés parce qu'ils ne comprenaient pas. Ils n'avaient pas la sagesse, ils n'avaient pas la compréhension spirituelle de « lui c'est le meilleur, il faut le suivre ». Et en fait, l'Église était comme ça, craquelée, morcelée, à la dérive, suivant chacun son gourou. Dans le passage que nous allons lire ce matin, et dans la continuation du chapitre 3, Paul va continuer à adresser cette situation en leur montrant quel regard porter sur les responsables dans l'Église. Et surtout, où mettre notre fierté dans l'Église. Donc lisez avec moi, si vous avez vos Bibles, 1 Corinthiens au chapitre 4, à partir du verset 1 et jusqu'au verset 8. 1 Corinthiens, chapitre 4, versets 1 à 8. Ainsi donc, qu'on nous considère comme des serviteurs de Christ, et des administrateurs du ministère de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des administrateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Pour ma part, il m'importe très peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Bien plus, je ne me juge pas, non plus moi-même. Ma conscience, il est vrai, ne me reproche rien, mais ce n'est pas pour autant que je peux être considéré comme juste. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne portez aucun jugement avant le moment fixé, avant le retour du Seigneur, car il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et il dévoilera les intentions des cœurs. Chacun recevra alors de Dieu la louange qui lui revient. Frères et sœurs, c'est à cause de vous que j'ai appliqué ces images à Apollos et à moi-même. afin que vous appreniez par notre exemple à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit et que personne ne s'enfle d'orgueil en prenant parti pour l'un contre l'autre. En effet, qui est celui qui distingue ? Qui te distingue ? Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi faire le fier comme si tu ne l'avais pas reçu ? Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches, vous avez commencé à régner sans nous. Si seulement vous pouviez régner, en effet, pour que nous aussi, nous puissions régner avec vous. On va regarder ce texte en deux grandes parties. Et la première partie, c'est quel regard porter sur nos responsables chrétiens ? Des versets 1 à 5. Quel regard porter sur nos responsables chrétiens ? Paul va commencer au verset 1 par caractériser ou définir ce que c'est qu'un responsable ou un serviteur dans l'Église. On a la plupart du temps à l'esprit qu'on est au service de l'Église et qu'un responsable ou qu'un serviteur dans l'Église est au service des uns et des autres. On trouve d'ailleurs cette notion dans des endroits comme le chapitre 12 d'1 Corinthiens ou encore dans 1 Pierre 4:10 qui dit que chacun de vous se mette au service des uns des autres. Et quelque part, c'est vrai. Si quelqu'un prêche, il prêche pour l'assemblée. Et donc, quelque part, son service est envers ceux qui l'écoutent. Ou quelqu'un qui fait le ménage dans l'église va nettoyer la salle et les bancs pour qu'ils soient propres pour ceux qui viendront le dimanche matin. Et donc, oui, dans un sens, on est au service des frères et sœurs. Mais ce que Paul affirme dès le verset 1, c'est qu'on est des serviteurs de Christ. Avant tout et surtout des serviteurs de Christ. Et en fait, ça a énormément de conséquences de réaliser que le service n'est pas un service envers des hommes, mais un service envers le Seigneur lui-même. Celui qui nous confie ce service est celui pour qui on fait ce service. Un peu comme une ligne hiérarchique. Dieu nous confie quelque chose et alors nous on le fait, et pas autre chose. Et c'est clair que c'est Christ qui nous confie ce service. Et nous sommes donc ses serviteurs et les serviteurs de Christ lui-même. Si ce n'est pas quelque chose qui était clair pour vous ou évident, au moins là, la lecture, ça devrait changer notre perception du service, notre perception de ce qu'on fait. Parce qu'en exécutant notre service, clairement, ça change si on se remémore qu'on est en train de servir le Christ ou qu'on est en train de servir un frère ou une sœur. Et en fait, comme dans le monde, si quelqu'un dans son boulot est en train de le faire pour le roi de Belgique, pour le Premier ministre, eh bien, il y aura un niveau d'excellence qui est attendu de lui qui sera énorme et l'exigence qui se mettra lui-même sera grande. Et en fait, s'il sert juste un collègue qui est à côté, eh bien, il le fera comme pour un collègue, sans grande importance. Et nous, dans le service, nous souvenir que nous sommes au service du roi des rois, doit changer notre compréhension du service et doit changer notre perception de qui sont les serviteurs. Le serviteur est aussi, en plus d'être le serviteur du Christ, et c'est toujours au verset 1, un administrateur des mystères de Dieu. C'est-à-dire un gestionnaire, un intendant, ou quelqu'un qui va s'occuper d'une tâche spécifique qui lui est confiée. Cette tâche concerne le mystère de Dieu. Et c'est une expression qui est reprise à plusieurs endroits dans ce livre d'1 Corinthiens, au chapitre 2, verset 1 ou les versets 7. Et cela ne veut pas dire que ce sont des choses cachées, que seule une élite peut comprendre. Les mystères de Dieu, en fait, dans le Nouveau Testament, c'est juste pour signifier quelque chose qui était caché dans le passé et que Dieu a dévoilé progressivement et finalement avec Jésus-Christ et qui est clair et visible pour tous en Jésus-Christ. Et si je devais donner un synonyme de ce mystère de Christ, c'est tout simplement l'Évangile. La bonne nouvelle du salut, accessible à tous par la foi en Jésus-Christ. Alors tout service qu'on exerce dans l'Église est un service pour Jésus-Christ, avec comme point central l'Évangile qui nous est confié. Et quel que soit ce qu'on fait, on sert Christ. Et le dépôt qui nous est laissé, c'est l'Évangile. Voilà pourquoi Paul dit aux Corinthiens, s'ils regardent Apollos, lui, en fait, ils doivent les considérer comme des serviteurs de Christ, comme des collègues qui ont une tâche qui est de garder le dépôt de l'Évangile. Et en fait, l'accent n'est pas sur qui fait la tâche, mais qui confie cette tâche, ou quel est le centre de cette tâche. Celui qui confie cette tâche, Jésus-Christ, le centre de cette tâche, l'Évangile. Si certains dans l'Église prenaient Apollos ou Paul pour des gourous, et cela comme un prétexte pour se diviser dans l'Église, Paul les ramène à la vraie nature du serviteur, quelqu'un qui est au service de Christ pour la cause de l'Évangile. Et en continuant à décrire ce qu'est un serviteur, il va montrer en fait quelle est la qualité principale du serviteur. Et c'est au verset 2. Du reste, ce qu'on demande des administrateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. La fidélité est le seul critère qui vaut pour un serviteur. On aurait pu s'imaginer beaucoup d'autres choses pour un pasteur. Combien de fois il prêche ? Pour une église, combien de fidèles est là, ou combien de gens sont baptisés, ou combien de gens sont convertis. Mais en fait, ce qui compte, c'est d'être fidèle. Voici le critère que Dieu regarde. Le plus important, l'essentiel pour les serviteurs, c'est vraiment qu'ils soient trouvés fidèles, qu'ils soient dignes de confiance, qu'ils accomplissent fidèlement la tâche qui leur a été confiée. En d'autres termes, qu'ils vivent l'Évangile et qu'il le propage. Voici ce qui devrait être notre ligne conductrice au service. Je précise, c'est vrai que ce texte, quand Paul parle, il parle des responsables de l'Église, des leaders. Mais en fait, je l'applique à nous tous, parce qu'en fait, on est tous plus ou moins dans une position de responsabilité dans le service. Naturellement, les anciens, qui sont les bergers, qui surveillent le troupeau, ceux qui prêchent, ceux qui président, les diacres, ceux qui enseignent ou ont la responsabilité de la garderie, de l'école du dimanche, des ados, des jeunes, des groupes de femmes, des groupes de maison, ceux qui s'occupent de l'accueil, du ménage, de la technique, de la musique, de la chorale, du site internet, ceux qui s'occupent de l'administratif, de la trésorerie, mais aussi tous ceux qui ont le ministère de prière, d'accompagnement, de discipulat, de visite, d'aide matérielle, et j'en passe. On peut le décliner à l'infini. Toutes ces choses très peu visibles font aussi partie du service. Et en fait, ce que Paul adresse ici, c'est pour chacun d'entre nous, parce qu'on est tous dans une ou l'autre de ces positions. Et pour nous, alors, le mot d'ordre est le même. Être au service de Christ, servir l'Évangile. Pas d'autre chose. Dans tout ce que nous exerçons les uns les autres, on peut vivre comme sous une constante évaluation des autres dans nos services. On peut avoir le sentiment que tout le temps, on est jugé, critiqué, évalué sur ce qu'on fait, un peu comme les exemples fictifs que j'ai décrits au début. Ou, quelquefois, c'est pire. La personne la plus sévère envers vous-même, ben c'est vous, parce que vous scrutez chaque moindre détail de ce que vous avez fait. Vous vérifiez et vous vous dites « Ah non, c'était encore raté, encore un truc que j'aurais pu faire mieux, encore de la préparation que j'aurais pu mettre, encore du temps que j'aurais pu consacrer, j'aurais pu être meilleur. » Et en fait, on se met une pression et des choses qu'en fait, personne ne nous impose. Et si on a ce sentiment d'être oppressé par le jugement des autres ou notre jugement personnel, mais c'est un peu ce que Paul vivait. En le regardant, on disait ben, « Pas digne d'être... Le responsable de notre église, regardez-le, il n'a pas toutes les compétences. On préfère Apollos, on préfère Pierre, on préfère même n'importe qui d'autre, mais pas lui. » Toutes ces critiques lui étaient directement adressées. Et voici ce qu'il répond. Au verset 3. « Pour ma part, il m'importe très peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Bien plus, je ne me juge pas non plus moi-même. » Ça peut ressembler à une sorte de pirouette, une manière d'essayer d'éviter la question. Et en fait, sa réponse, c'est même une réponse qu'on trouve souvent dans le monde. Quand on se sent critiqué, quand on se sent un peu sous le feu des critiques, on peut sortir, ouais, Dieu seul me juge, vous autres, je ne vous écoute pas. Et il y a plein d'artistes dans le monde de la musique qui ont tatoué sur le corps, Dieu seul me juge. Ouais, je n'ai pas envie de votre sentiment, il n'y a que Dieu qui me juge. C'est vrai, ça peut paraître une pirouette ou une manière de fuir la question, mais en fait, ce que Paul dit est en lien direct avec le fait qu'on est au service du Seigneur lui-même et que le service qu'on fait, c'est l'évangile que le Seigneur nous confie. Alors en fait, si quelqu'un devait nous juger, c'est celui qui nous confie la tâche, en toute logique. Et alors le Seigneur lui-même. Personne d'autre n'a à nous juger sur notre service. Il n'y a que le Seigneur qui le fait. Et quelque part, ça peut être une vérité libératrice de se dire, en fait, toute la pression que je me mets moi-même, toute la pression que je peux ressentir des autres, les critiques, les sentiments, les remarques, mais en fait, ça ne compte pas. Parce que tout ce qui compte, c'est l'avis de celui qui me juge et de celui qui m'a confié cette tâche. Libérateur. Alors la pression s'en va. Parce que finalement, je n'ai pas de compte à rendre à ceux qui sont autour de moi. J'ai seulement des comptes à rendre à Dieu. Et c'est vrai, c'est une vérité qui libère. Et dans la suite du passage, au verset 4 et au verset 5, il le dit, ma conscience, il est vrai, ne me reproche rien, mais ce n'est pas pour autant que je peux être considéré comme juste. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne portez aucun jugement avant le moment fixé, avant le retour du Seigneur, car il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et il dévoilera les intentions des cœurs. Chacun recevra alors de Dieu la louange qui lui revient. En gros, ne jugez pas. Ne jugez pas avant le moment, parce que ce n'est pas vous les juges, c'est Dieu qui juge, mais surtout, ce n'est pas le moment. Et encore une fois, libérateur, mais il y a quand même un avertissement. Et dans le début du verset 5, il y a cet avertissement qui nous dit « Ne portez aucun jugement avant le moment fixé, oui, avant le retour du Seigneur, car il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et il dévoilera les intentions des cœurs. » C'est un avertissement pour nous et pour ce qui nous motive dans le service. Le Seigneur nous le confie, oui, mais qu'est-ce qui nous motive à nous ? La gloire personnelle, le fait de pouvoir être devant et de parler, d'avoir une réputation, d'être connu, d'être populaire, ou est-ce que ce qui compte, c'est la gloire de Dieu, qu'on va mettre en avant et qu'on va prêcher l'évangile et l'annoncer ou le vivre authentiquement dans tout le service qu'on fait ? Oui, il y a un avertissement à ne pas se mettre au service pour les mauvaises raisons, mais au contraire, à considérer l'évangile et le Seigneur qu'on sert. Mais je reviens sur le fait que c'est libérateur et que c'est le fruit de la grâce. On pourrait s'attendre à la suite de ce début du verset 5, que puisqu'il met en lumière ce qui est caché, les intentions des cœurs, les choses que nous on ne voit pas du cœur des uns et des autres, alors il condamnera, parce que dans le fond de nos cœurs, il y a des intentions qui ne sont pas toujours à la gloire de Dieu. Mais non, ce qu'il dit à la fin, c'est « Chacun recevra à l'ordre de Dieu la louange qui lui revient. » Et en fait, on est passé du jugement des hommes, des gens dans l'Église, au jugement de Dieu, et finalement le jugement de Dieu a l'air plein de grâce, compatissant. Au lieu de nous accabler, en fait, il nous rendra gloire pour tout ce qu'on a fait, y compris les choses que personne n'a vues, les choses masquées qu'on a fait dans notre temps personnel, dans le secret de notre chambre, dans la prière. Mais tout ça, il le voit. Et en fait, il le récompensera. On peut souvent se dire, ouais, service, c'est accablant, c'est lourd à porter. Mais en fait, en considérant ce que le Seigneur peut faire pour nous, quand il nous retrouvera à la fin, c'est glorieux d'être à son service. Mais encore une fois, si nous sommes dans la position de regarder quelqu'un qui est au service, ce que Paul dit, c'est ne jugez pas, ne jugez pas trop tôt. Attendez. En fait, Jésus s'occupera lui-même de juger et il le fera à son retour. En attendant, personne n'est le juge de personne sur le service. Seul Dieu juge. Je veux cependant apporter une petite nuance qui va peut-être paraître une contradiction. Mais si Paul nous dit de ne jamais juger, est-ce que ça veut dire que dans aucune situation, on ne devrait juger ? Est-ce qu'on devrait tout laisser passer alors à un serviteur parce que nous ne sommes pas son juge ? Il peut vivre dans la débauche, faire ce qu'il veut de sa vie et en fait, on le laisse parce qu'on n'est pas le juge, c'est le Seigneur qui juge ? En fait, non. Dans la suite
Au chapitre 5, clairement, il y a de l'immoralité sexuelle. Et Paul dit non, il faut arrêter ça net et vite. Parce qu'un péché non repenti dans l'Église, quelqu'un qui continue à vivre dans l'Église tout en ayant sa condition de péché sans se repentir, mais c'est un peu comme le levain, c'est un peu comme la gangrène, ça va contaminer toute l'assemblée et toute l'assemblée va se retrouver à vivre cette vie. En fait, pour ce genre de personnes et pour ce genre de situation, il faut être vif, trancher et exclure. Mais vous le verrez au chapitre 5. Mais en revenant à notre chapitre ici, il n'y a pas de jugement que nous devons porter des uns des autres. Il n'y a pas de choses que nous devons porter comme fardeau. Au contraire, le service devient quelque chose qui est un peu plus léger. Parce que finalement, celui qui nous juge, c'est celui qui nous a confié la tâche et qui nous a choisi. Et ce qu'il nous donne, c'est l'Évangile, à la fois comme service premier, mais aussi comme moteur de notre service. On avance par l'Évangile. Et en fait, il ne nous laisse pas seuls. Et quand il revient, il donne sa louange à chacun. Vraiment libérateur et plein de grâce. Parce que finalement, ce qui compte, c'est notre fidélité au Seigneur lui-même et à son Évangile, et rien d'autre. Dans la seconde partie du passage, donc des versets 6 à 8, Paul va adresser une autre, où la suite de la situation, c'est l'orgueil des Corinthiens. En fait, de cette situation de division et du fait que chacun se range derrière un responsable, en fait, il y a de l'orgueil qui naît, parce que je suis celui qui a le responsable le plus sachant et le plus savant, le plus méritant, celui qui est digne de diriger. En fait, je comprends la Bible mieux que vous. Je suis spirituellement un peu plus haut que vous. Et ça, c'était la position des Corinthiens, au sein de l'Église, se regardant en supérieur et inférieur les autres. Moi, j'ai compris, vous ne comprenez rien. Et Paul va adresser ça. Il va dire, dès le début du verset 6, « Frères et sœurs, c'est à cause de vous que j'ai appliqué ces images à Apollos et à moi-même, afin que vous appreniez par notre exemple à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit et que personne ne s'enfle d'orgueil en prenant parti pour l'un contre l'autre. » En gros, si vous êtes dans cette situation où vous voulez vous démarquer les uns des autres, non. Je reviens à l'exemple dont Paul parle ici, l'exemple ou les images qu'il a appliquées à lui-même et à Apollos, et en fait, il revient au chapitre 3. Et il avait utilisé l'image au chapitre 3 d'un champ où Paul lui-même avait semé, Apollos était venu arroser, et c'est Dieu qui faisait croître. Ou encore l'image d'une construction. Paul avait posé la fondation qui était Jésus-Christ, et les autres étaient venus construire dessus. Et en fait, quand on regarde ces deux images et qu'on les comprend bien, ce qui est mis en avant, ce n'est pas les ouvriers qui font le travail. Ce qui est mis en avant, c'est l'œuvre de Dieu qui fait croître à la fois la plante, parce que finalement, celui qui plante, mais quelle gloire il tire à planter. Rien ne pousse si ce n'est pas arrosé ou si le Seigneur ne fait pas croître. Ou celui qui arrose, quel résultat tire-t-il s'il arrose la terre sans une graine ou sans quelqu'un qui fait pousser? Et en fait, Paul montre que le curseur doit être pointé sur Christ. C'est lui qui fait grandir les choses. Et au fait, les autres, c'est juste des collègues de travail, des gens qui ont des tâches distinctes, à des moments différents, mais personne n'est supérieur à l'autre. Tous les deux exercent le même service, de la même valeur. Et en fait, ça peut ressembler un peu à des situations que nous, on vit dans nos églises, dans nos milieux chrétiens. Et du fait de la situation de Covid, beaucoup de cultes en ligne sont disponibles. On peut aller sur YouTube, regarder une prédication. On peut avoir accès à des prédications d'église où on ne pourrait pas être. On peut avoir du contenu, de l'enseignement. Et en fait, on peut commencer à enfler d'orgueil parce que nous, on connaît les bons enseignants. On connaît tel prédicateur, on connaît tel auteur, on connaît tel théologien. Et en fait, on comprend leur savoir. Et en fait, on est un peu meilleur que les autres qui sont juste là à écouter une prédication de junior le dimanche et franchement, pas terrible quoi. On est vraiment dans une église qui peut ressembler à ça, une église morcelée par des avis, des connaissances différentes ou des niveaux différents. Ou encore au sein de la même église, l'un qui se réclame d'un responsable ou de l'autre et qui considère qu'il est plus haut parce qu'il connaît ce responsable et que les autres sont plus bas. Mais en fait, ce que Paul dit, il n'y a aucune valeur à tout ça. En fait, il revient au critère du début. Ce qui compte, c'est la fidélité. Et en fait, si ce serviteur est fidèle, il n'y a rien à rajouter. Et c'est ça l'expression. À ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Ce que Dieu demande, c'est la fidélité du serviteur et rien d'autre. Pas fidélité plus beauté, fidélité plus éloquence, fidélité plus charisme ou fidélité plus... On peut imaginer tout ce qu'on veut. Ce que Dieu demande, c'est la fidélité. Et à ne pas aller au-delà de ça. Et si on veut s'enfler d'orgueil, rappelons-nous que tous ceux qui servent, ben, ce sont des ouvriers. Il n'y a que le maître de la moisson qui est celui qui est supérieur et celui en qui on devrait tirer de la gloire. Et il le dit de façon un peu plus explicite au verset 7. En effet, qui est celui qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi faire le fier? Comme si tu ne l'avais pas reçu. Ou on peut citer encore Éphésiens 1:10. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Aucune gloire pour nous. Seulement de la gloire pour celui qui nous confie ce service. C'est lui qui l'a préparé d'avance. C'est lui qui nous donne, si on peut le dire, les dons que nous avons. C'est lui qui nous met dans les places où nous sommes. Mais alors, aucune fierté pour nous. Seulement de la fierté d'appartenir à Christ. Et c'est là où ils vont venir. Et Paul va terminer, et je vais terminer aussi par ça, ce verset 8, où il utilise un peu d'ironie, un peu de sarcasme, où il leur dit, déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches, vous avez commencé à régner sans nous. Si seulement vous pouvez régner en effet, pour que nous aussi nous puissions régner avec vous. Ouais, il les regarde un peu comme ce qu'ils se considèrent, comme des gens qui ont tout accompli. Ils sont au bout, ils sont au sommet de la chaîne, ce sont les meilleurs chrétiens qu'on puisse trouver. Et pourtant, l'ironie, c'est qu'ils les considèrent comme des bébés, des gens à qui on donne du lait, parce qu'ils ne sont pas capables de manger autre chose, des enfants spirituels. Mais eux se considèrent comme des grands dans le monde spirituel. Et c'est un avertissement, encore une fois, pour nous. Si notre fierté vient de ce qu'on pratique, de ce qu'on possède, de ce qu'on fait, des gens à qui on est associé, on se trompe lourdement et on est dans l'erreur. Tout ce qu'on peut revendiquer ici ce matin comme le nôtre, on doit l'attribuer à Dieu parce que c'est lui qui nous l'a donné. On n'a pas eu d'autre part. Est-ce par notre mérite qu'on a obtenu le salut? Non. Par le mérite de Christ, qui lui a porté nos péchés, qui est mort à la croix pour nous et qui est ressuscité. Voilà l'avertissement que Paul leur laisse. Si nous devons placer notre fierté en quelque chose, c'est en Christ et en Christ seul. Notre plaisir, notre joie, c'est l'évangile qu'il nous laisse à partager au monde entier. Et voici ce qui compte vraiment pour un serviteur. Et en évoquant toutes ces choses, c'est clair que ça casse pour les Corinthiens des conceptions qui sont erronées, des compréhensions qui sont fausses de ce que c'est que la vie chrétienne ou du regard qu'on devrait avoir sur les serviteurs. Le bon regard, c'est serviteur égal ouvrier du Christ, quelqu'un qui est mis au service de Christ, qui a le dépôt de l'Évangile et qui doit le vivre fidèlement. Et en fait, c'est notre mission à tous dans notre vie chrétienne. Fidèle à Christ, garder le dépôt de l'Évangile et le vivre fidèlement. Voici ce qui compte. Je veux juste terminer par trois mots pour finir cette prédication. Le premier mot, c'est s'engager pour servir. Ce n'est pas un mot, c'est un groupe de mots, mais s'engager. En lisant tout ça, la première chose qui m'a interpellé, c'est que on ne devrait pas être dans une église où on est passif. On devrait tous être au service. On devrait tous être au service de Christ. Et si ce n'est pas le cas, on devrait s'interroger. Qu'est-ce que je fais de ce qu'il me donne? Parce que c'est lui qui le donne. Qu'est-ce que je fais de ces choses que je considère comme ma fierté, mon intelligence, mon éloquence, ou tous les dons qu'on peut recevoir, qu'est-ce que j'en fais? Si je ne les mets pas à son service, je les mets à mon service. Et alors je suis le Seigneur, et ce n'est plus lui. Et si on va dans cette direction, on s'égare. Qu'on soit jeune, qu'on soit moins âgé, on doit s'engager. Et le service, encore une fois, ce n'est pas juste des choses visibles, du haut de la chair, mais il y a plein d'autres choses. Et notamment le service discret, mais essentiel de la prière, intercéder pour les uns les autres. Quel beau ministère. Personne ne le verra jamais, mais le Seigneur le voit. Le deuxième mot, c'est persévérance. Si vous avez été au service depuis des années et que vous vous sentez comme usé, fatigué, éreinté à cause de la pression que vous êtes mise ou en réalité à cause des critiques sur votre légitimité, il ne mérite pas d'être là, il ne devrait pas faire ça et vous l'entendez continuellement pendant des années. Si vous vous trouvez dans cette position, là aussi, le mot en vrai, c'est persévérer. Revenez à qui vous servez et revenez à quel est votre service. On sert Christ. Et malgré toutes les critiques, si vous êtes resté fidèle, il arrivera ce jour où Christ se lèvera, il ouvrira les bras et il vous dira « Bon et fidèle serviteur, entre dans la présence de ton maître ». Malgré toutes les critiques que tous nous avons pu formuler, lui, il dira ça, parce qu'il a vu ce qu'il y avait dans le cœur et il connaît l'évangile qu'il a laissé dans votre cœur et il sait que vous avez été fidèle. Si vous vous sentez dans cette position, fatigué, non reconnu, persévérez, parce que l'aboutissement est beau. Et la dernière chose, c'est unité. Dans toute cette épître-là, pour en tout cas les quatre premiers chapitres, le mot-clé, c'est unité. Une église unie. Et à la description des Corinthiens, on a vu à quoi ressemblait une église désunie. Et en fait, ce qui est le signe d'une immaturité. À chaque fois que notre réflexe serait de nous dire critique, ou séparatisme, ou se mettre dans des groupes, ou s'éloigner des frères, on devrait réfléchir à notre maturité spirituelle. Peut-être qu'on n'y est pas encore. Peut-être qu'on devrait encore apprendre. Peut-être qu'on devrait encore grandir. Peut-être qu'on devrait encore demander la sagesse de Dieu, qu'il vienne réformer notre cœur et qu'il vienne retirer cette sagesse du monde qui pollue et qu'il mette la sagesse de Dieu, celle qui nous fait comprendre que l'Église, c'est le corps, c'est la famille, c'est ce pourquoi Christ est mort. Il en est mort. Ça a de la valeur à ses yeux. Nous devons persévérer dans l'unité. Et pour finir, ça fait trois fois que je le dis, mais c'est vrai qu'on, Eric l'a bien dit, on peut regarder la vie dans ce sens, d'aujourd'hui vers l'éternité. Mais en fait, en lisant le verset 8, on devrait regarder la vie de l'éternité vers ici. Tout ce qui est déjà accompli, tout ce qui est déjà sûr, vers là où nous en sommes sur notre cheminement. Et ça change toute la perspective. Si nous savons que notre salut est acquis, il n'est pas remis en cause, que notre place est auprès du Père, mais en fait, on peut tout risquer pendant la vie qu'on a aujourd'hui. Et tout risquer pour se mettre à son service, et quel que soit ce que le monde nous dira ou l'Église nous dira, on peut tout risquer. Ce que Dieu nous demandera, ce ne sera pas la performance, mais la fidélité. Prions. Notre Dieu, notre Père, merci pour ton amour, pour ta grâce, pour ta bonté et ta fidélité. Et merci parce que tu es patient envers nous. Tu nous reprends, tu nous corriges. Là où nous sommes dans l'erreur, tu nous le montres. Et merci parce que ta parole nous aide à corriger et à réformer nos cœurs. Et Seigneur, je te prie pour vraiment l'unité, ici, dans cette église. Seigneur, que nous luttions chacun, les uns les autres, à préserver cette unité, comme Christ l'a fait en donnant sa vie. Seigneur, que nous sentions le désir et le besoin de nous mettre au service de Christ, tous les jours, partout où nous sommes, Seigneur, pour refléter l'évangile qu'il nous laisse et pour un jour entrer dans sa présence, dans la joie du Seigneur qui fera nos louanges parce que nous l'avons servi avec fidélité. Bénis encore ton Église et bénis chacun d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.